Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 18. 8 octobre 2025. Victoria et Saïma allaient souvent voir les grands miroirs quand elles emmenaient les bêtes jusqu'au lac. Les deux cousines vivaient à Gölschau, dans la ferme familiale que leur père avait reprise 20 ans plus tôt. C'était au moment où les grands miroirs avaient été installés à quelques kilomètres de là. Au début des années 2000, la Namibie avait accueilli pour la première fois un grand instrument scientifique. Il s'agissait d'un télescope un peu particulier. Il était constitué en fait de 5 miroirs, un grand qui faisait 28 mètres de diamètre et 4 petits de 12 mètres qui l'entouraient en formant un carré. Le système de télescope, appelé High Energy Stereoscopic System, avait été installé par des astrophysiciens formant une collaboration en grande partie allemande. À l'école, Victoria et Saïma avaient appris que les miroirs étaient utilisés pour l'observation des phénomènes les plus violents et extrêmes de l'univers. Ils permettaient de détecter des rayons gamma de très haute énergie de façon indirecte, via les cascades de particules secondaires que ces rayons gamma produisaient dans l'atmosphère. S2 était le plus grand télescope Cherenkov jamais construit. Il était exploité par des physiciens des astroparticules, qu'on pouvait aussi appeler des astrophysiciens des particules, pour étudier les sites de production des rayons cosmiques, qui avaient le bon goût de produire des photons gamma très énergétiques, trous noirs supermassifs, pulsars, supernova. Les miroirs de S2 détectaient la lumière Cherenkov que produisaient les gerbes de particules dans le ciel namibien quand leur vitesse était supérieure à la vitesse de la lumière dans l'air. L'astrophysique des particules était l'une des rares branches de l'astrophysique qui se retrouvait quelque peu épargnée par la catastrophe en cours. Victoria adorait regarder pivoter le gigantesque miroir central, avec ce léger grincement si particulier. Il était grand comme deux terrains de tennis. Elle pensait, avec sa cousine, que les télescopes servaient aussi à observer les étoiles filantes qu'on voyait de plus en plus souvent, dès le soir venu. Mais la réalité était autre. Et heureusement, la chance de S2 était qu'il n'était sensible qu'à une lumière bien particulière, à la longueur d'onde Cherenkov de la molécule de diazote, et les traces des rentrées atmosphériques de particules de débris n'étaient donc pas détectées. D'autres grands instruments dédiés à l'astrophysique des particules, ceux qui étaient installés au sol, étaient également épargnés, ce qui n'était pas le cas des gros détecteurs de particules et antiparticules qui étaient encore en orbite. Il y avait les détecteurs de rayons cosmiques Hawk au Mexique et Lasso en Chine, OG en Argentine, mais aussi tous les grands détecteurs de neutrinos, qu'ils soient installés dans la mer comme KM3Net ou dans la glace antarctique comme IceCube, ou bien dans des sites souterrains comme Hyperkamiokande au Japon, Dune aux États-Unis ou Juno en Chine. Et d'autres types d'expériences de recherche d'astroparticules qui étaient installées elles aussi dans des laboratoires souterrains pour rechercher notamment des particules exotiques de matière noire, gardaient leur potentiel de découverte sans être impactées par la nouvelle ceinture de débris et les rentrées atmosphériques associées. La fenêtre non photonique de l'astrophysique semblait ainsi pouvoir survivre à la catastrophe. C'était également le cas pour les études des ondes gravitationnelles au sol. Mais en revanche, le projet qui avait déjà reçu des financements pour élaborer un gigantesque interféromètre laser spatial, qui avait pour objectif de détecter des fusions de trous noirs supermassifs via leurs ondes gravitationnelles à basse fréquence, devrait être avorté très vite, faute d'accès à l'orbite. Le tableau de l'astrophysique n'était pas complètement noir, même si ce qui restait opérationnel, toutes branches confondues, était toutefois très limité. À 1200 km plus au sud, dans la brousse du désert de Karoo en Afrique du Sud, les radioastronomes qui utilisaient les 64 antennes du réseau Meerkat ne se plaignaient pas non plus de la catastrophe orbitale. Depuis quelques années, il ne voyait qu'une dégradation continue dans les signaux qu'il détectait en provenance de sources extragalactiques. Ces signaux parasites venaient directement des retransmissions vers le sol des satellites des constellations. Le réseau venait tout juste d'atteindre sa pleine performance quand Skylink avait commencé son déploiement monstrueux. Meerkat écoutait le ciel dans trois bandes de fréquences, entre 0,58 et 1,015 GHz, entre 0,9 et 1,67 GHz et entre 8 et 14,5 GHz. C'était cette dernière bande, la plus intéressante, qui était gravement polluée par les signaux descendants des Skylink, avec leurs bandes entre 10,7 et 12,7 GHz. Mais depuis quelques semaines, une très nette amélioration avait été constatée par les radioastronomes sud-africains et leurs collaborateurs dans cette bande à haute fréquence. Tout simplement grâce à la disparition progressive des émetteurs orbitaux. Le silence radio revenait miraculeusement. En rentrant à la ferme à la nuit tombante, Victoria et Saïma regardaient les étoiles filantes qui ne s'arrêtaient plus. Elles cherchaient celle qui serait la plus brillante et qui ferait la plus longue trace dans le ciel. Il y en avait de couleurs différentes. Certaines étaient presque rouges, comme les supports métalliques des grands miroirs des scientifiques, et d'autres étaient presque bleues. « Tu voudrais faire quoi, toi, quand tu seras grande ?» demanda Victoria à sa cousine. « Moi, je voudrais être une scientifique !»«
Une scientifique ? Comme les gens qui travaillent avec les grands miroirs ?»«
Ouais, j'aimerais trop découvrir plein de choses !»«
Comme par exemple, pourquoi il y a des étoiles filantes de plusieurs couleurs différentes ?»«
Oui, pourquoi pas ? Il doit bien y avoir une raison !» répondit Saïma.
« Oui, c'est vrai ! Le feu est toujours orange, alors pourquoi il y a des étoiles filantes de plusieurs couleurs ?»
Et je pourrais aussi découvrir pourquoi on en voit de plus en plus souvent. À la fin de l'hiver, on n'en voyait jamais, hein, tu te rappelles ?
Oui, c'est bizarre, en fait, dit Victoria.
Et toi, tu voudrais faire quoi ? Demanda Saïma.
Je ne sais pas encore, mais scientifique, ça peut être très intéressant. Tu as raison.
Il faut être forte en maths, en tout cas.
Bon, moi ça va, je suis forte dans toutes les matières.
Et moi aussi, fit Saïma en riant.
Ça serait drôle qu'on fasse toutes les deux les mêmes études.
Tu crois que nos parents y seraient d'accord qu'on abandonne la ferme ?
Ah ça, je sais pas.